On va terminer notre série maintenant. Exode au chapitre 33. Et on va lire à partir du verset 7, juste pour faire le lien un petit peu avec ce qu'on avait terminé la dernière fois. Exode 33, à partir du verset 7. Et si vous vous rappelez, depuis la dernière fois, donc le chapitre 32, on avait vu un épisode triste, vraiment, de l'histoire d'Israël, de sa relation avec Dieu. Dieu qui a ouvert la mer rouge, qui l'a sauvé, qui l'a sorti de l'esclavage en Égypte, conformément à toutes les promesses qu'il avait faites à Abraham dans les temps qui avaient précédé. Dieu est resté toujours concentré sur cet objectif, mais on voit le peuple régulièrement dévié de cet objectif. Et l'épisode du veau d'or était un épisode grave dans cette série-là. Et cet épisode nous a montré donc à la fois le cœur pécheur et tortueux par-dessus tout, pourri, rebelle du peuple d'Israël devant la montagne du Sinaï, où Dieu vient de se révéler, de se manifester. Et d'un autre côté, on avait vu aussi la colère dévorante et juste de Dieu contre le péché. Mais si vous vous rappelez, on avait vu aussi la dernière fois que le peuple est pris de remords après ça, il se repent authentiquement, il s'attriste. Et on avait vu aussi le Seigneur démontrer qu'il n'était pas résolu à détruire son peuple, qu'il n'était pas contre son peuple. Et la démonstration, ça consistait dans le fait que Dieu continue d'accompagner le peuple, qu'il n'a pas détruit tout le monde, d'accord ? Tout le monde n'est pas mort, il y en a beaucoup qui sont morts, mais pas tous. Et qu'il a suscité, autant qu'il a écouté l'intercession de Moïse, pour le bénéfice de tout le peuple. Alors, les questions en suspens, c'est, ok, ouais, ça vient de chauffer. Maintenant, quel genre de relation il va y avoir entre Dieu et son peuple? Quelle forme ça va prendre maintenant? Est-ce qu'on peut espérer une présence réellement de Dieu avec son peuple? Est-ce qu'on peut réellement penser et voir arriver la relation spéciale telle que Dieu l'avait promise déjà du temps d'Abraham? Qu'en est-il de l'alliance? Vous vous rappelez, Dieu était en train de faire un contrat. Il s'engageait, il demandait un engagement en retour du peuple. Le peuple avait dit « Oui, on va le faire !» Et à peine la ratification faite, à peine on est en train de mettre les papiers au clair que c'est foutu. Qu'est-ce qui va en être de cet engagement de Dieu vis-à-vis de son peuple et du peuple envers Dieu? Et j'espère que ce texte, normalement, ce matin, c'est logique, c'est la suite, devrait répondre à ces questions. Et je vous invite à regarder ça ce matin. On aura trois choses. Premier point, c'est que on va voir proche et loin. On va voir la proximité et la frustration de l'éloignement. Dieu parle à Moïse face à face, comme à un ami. Mais dans un premier temps, le peuple reste loin. Et alors Moïse vient et demande à Dieu, j'aimerais qu'il y ait cette même proximité entre moi et toi, mais pour tout le peuple. Et Dieu accepte ça. Et puis on va voir Dieu qui renouvelle l'alliance sur la base de qui il est, sur la base de sa propre personne, de son caractère. Et puis on terminera en regardant maintenant comment Dieu parle face à face avec son peuple, comme si c'était avec un ami. Et ça passe par l'intermédiaire qui s'est choisi, c'est-à-dire Moïse. Pour commencer, voyons d'abord dans les versets 8 à 11 du chapitre 33, l'intimité. D'un côté, la proximité, la présence de Dieu pour Moïse, mais la distance pour le peuple qui n'adore Dieu que depuis sa tente, au loin, alors que la tente est en dehors du camp. Il ne s'approche pas de la tente. Regardez avec moi, Exode chapitre 33, versets 7 à 11. Moïse prit la tente et la dressa pour lui hors du camp à quelque distance. Il l'appela tente de la rencontre. Quiconque voulait consulter le Seigneur sortait vers la tente de la rencontre qui était hors du camp. Lorsque Moïse sortait vers la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Lorsque Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Alors, il, c'est-à-dire Dieu, parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée s'arrêter à l'entrée de la tente. Alors tout le peuple se levait et se prosternait, chacun à l'entrée de sa tente. Le Seigneur parlait à Moïse face à face comme un homme parle à son ami. puis il, c'est-à-dire Moïse, revenait au camp. Mais son auxiliaire, le jeune Josué, fils de Noun, ne bougeait pas de l'intérieur de la tente. Alors on voit cette distance pour le peuple, cette frustration. Dieu est à portée de main, on peut le voir, on voit la colonne de nuée qui descend pour aller à la rencontre de Moïse. Mais le peuple ne peut pas s'approcher. Il reste chacun à l'entrée de sa tente. La tente elle-même, elle est à l'extérieur du camp, elle n'est pas au milieu, comme ça devrait être le cas. Dieu avait promis qu'il serait au milieu de son peuple. Et pour le moment, il y a une distance qui sépare les campements, les habitations du peuple d'Israël et la tente de la rencontre. Cette tente de la rencontre, ce n'est pas le tabernacle. Pour le moment, les plans sont là. Dieu les a révélés sur la montagne à Moïse, mais l'épisode du veau d'or a fait capoter ces plans. Et le tabernacle n'est pas construit. Donc on est loin de l'accomplissement, on est loin de la merveilleuse maison, de la merveilleuse habitation que Dieu avait prévue pour être au milieu de son peuple, avec le système de sacrifice aussi qui va avec la maison. C'était, le tabernacle, c'était pas juste une tente, mais aussi il y avait la possibilité d'offrir des sacrifices, de demander pardon à Dieu pour les péchés, de savoir que ce sang versé sur l'arche de l'Alliance était suffisant pour couvrir tous nos manquements à la loi de Dieu, que du coup on pouvait s'approcher en pleine assurance. Il y avait cette table, si vous vous rappelez l'image qu'on avait projetée ici, les textes qu'on avait lus, cette table avec les pains. On peut manger, on peut être en communion avec Dieu dans le tabernacle. C'est ça que ça signifie en fait. Donc c'est bien plus qu'une tente. Cette tente, elle exprimait, elle représentait le type de relation que Dieu veut avec son peuple. Et il y avait aussi, on n'avait pas beaucoup parlé de ça, mais l'autel de l'encens qui représente les prières qui montent vers Dieu. Dieu qui écoute, qui est attentif à la voix de son peuple, qui lui fait des requêtes, qui lui dit merci, qui lui dit « Seigneur, là on est dans une situation désespérée, interviens s'il te plaît. Écoute, là on aura du mal à joindre les deux bouts, il faut que tu fasses quelque chose. » Il y avait cet autel-là qui représentait toutes ces prières, à la fois d'adoration, de remerciement, mais aussi de demande. « Seigneur, je suis inquiet, viens s'il te plaît m'accorder la paix. » Et Dieu était prêt à entendre ça, à vouloir répondre à ça. Vous voyez que cette tente, ce tabernacle, donc c'était plus qu'une simple tente bien décorée avec des mais ça disait quelque chose, ça dit quelque chose de la relation que Dieu veut avec Dieu. Ça la rendait visible, ça la rend perceptible, si vous voulez. Et donc si nous, en lisant les chapitres précédents dans Exode et le peuple qui a compris ce que Dieu a fait, ce qu'il a dit jusqu'à présent, si on a bien compris ça, les promesses faites à Abraham et jusqu'à Moïse, on ne peut pas être satisfait par la relation qu'on est en train de voir maintenant dans ces quelques versets ici du chapitre 33, où le peuple doit rester à distance, il peut juste voir de loin. Il n'y en a qu'un seul qui peut s'approcher, c'est Moïse. Et quand lui s'approche, Dieu vient et lui parle. Est-ce que vous avez remarqué le contraste? Alors Moïse, lui, il vient, et à peine il arrive dans la tente, la nuée qui représente la présence même de Dieu, elle descend, elle vient à la rencontre de Dieu. Il ne dit pas, oh là là, c'est qui celui-là qui s'approche trop près? Non, Dieu vient pour Moïse. Et ils se parlent face à face. Ils parlaient avec Moïse. N'est-ce pas insensé? Quand on y réfléchit deux secondes, le Dieu créateur infini qu'on a commencé à décrire au début du culte, celui qui s'est révélé sur la montagne du Sinaï, tremblant, fumant, au point que tout le monde disait « On ne peut pas s'approcher de ce Dieu-là », ce Dieu qui avait dit d'ailleurs « Ne vous approchez pas trop, parce que je suis un Dieu saint ». Quand c'est Moïse qui arrive, Dieu descend et vient et lui parle. Et il lui parle comme un employé, il lui parle comme un esclave, il lui parle comme un moins que rien, il lui parle comme un ami. Il lui parle personnellement, il parle cœur à cœur. C'est ça quand vous avez un ami, vous ne parlez pas de la pluie et du beau temps. Vous commencez peut-être par la pluie et le beau temps, mais après, vite, vous arrivez à vous parler de ce qu'il y a sur son cœur et ce qui est sur votre cœur. Et vous échangez, c'est profond. Et Moïse, lui, il bénéficie de ça. Il peut aller quand il veut. Il peut aller quand il veut à l'attente de la rencontre. Quand il arrive, Dieu vient aussi à sa rencontre et Moïse peut parler à Dieu face à face comme à un ami. Waouh ! Alors là, on est vraiment... Moïse est super et le peuple, pas super. Il y a la proximité pour Moïse, il y a la frustration pour le peuple. Et c'est juste. On comprend pourquoi c'est comme ça maintenant, parce qu'on a lu le chapitre 32. Je me suis posé juste cette question ici en voyant Moïse qui allait vers Dieu. Il y a Dieu qui est quand même là. Essayez de suivre mon raisonnement, pardon. Il y a Dieu qui est quand même là, d'accord ? Il est un peu à l'écart. Est-ce que pour nous-mêmes, on se satisfait de cette genre de relation-là avec Dieu ? On aime bien Dieu. Voilà, il est à l'écart, il est quand même là. Ce sera suffisant pour moi. Est-ce que on peut risquer pour nous-mêmes d'aimer les bénédictions de Dieu plus que Dieu lui-même, plus que vivre ces bénédictions de Dieu dans la relation avec Dieu lui-même? Est-ce qu'on pourrait vraiment apprécier une vie comme ça? Est-ce que nous aussi, on ne peut pas de temps en temps ressentir cette frustration quand en fait Dieu est à l'écart de notre vie? On jouit des bénédictions de Dieu, on a la vie, il est là dans un sens, mais on n'a pas accès à sa présence même. Et en fait, nous sommes faits pour vibrer à la présence même de Dieu. Et c'est possible. Regardez Moïse, lui, il s'approche. Et c'est ce que nous désirons, c'est ce que tu désires ce matin. Alors la question, c'est est-ce que c'est possible pour plus que Moïse? Est-ce que ce sera possible pour le reste du peuple? Est-ce que ça va être possible pour nous aujourd'hui? Pour tout un peuple, et pour tout un peuple avec une tendance à avoir le cou raide. Alors justement, c'est la deuxième partie, c'est glorieux. C'est juste magnifique. Si vous regardez avec moi les versets 12 à 23 dans le chapitre 33, Moïse vient et au lieu de satisfaire de cette proximité que lui bénéficie, il demande cette même proximité pour tout le peuple. Il dit à Dieu, c'est pas juste suffisant pour moi, je voudrais que tout le peuple jouissent de cette même présence avec toi. Et on voit que Dieu accepte. Moïse est conscient de la faveur spéciale dont il bénéficie devant Dieu. Quand on va lire le passage, vous allez voir à plusieurs moments, il dit « J'ai trouvé grâce à tes yeux. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ou puisque tu as dit que j'ai trouvé grâce à tes yeux. » Et on entend même Dieu qui dit « Tu as trouvé grâce à mes yeux. » Moïse est conscient de cette relation spéciale dont il bénéficie avec Dieu. Mais Moïse demande cette même grâce pour tout le peuple. Il intercède pour tout un ensemble de personnes. N'est-ce pas encourageant? Lisez avec moi, chapitre 33, versets 12 à 23. Moïse dit au Seigneur, « Regarde, tu me dis, fais monter ce peuple vers le pays promis, d'accord? Pourtant, tu ne m'as pas fait savoir qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je t'ai distingué par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. » Maintenant, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai ainsi grâce à tes yeux. Regarde, cette nation est ton peuple. Dieu répondit, j'irai moi-même avec toi et je t'accorderai le repos. Verset incroyable, magnifique. Moïse lui dit, si tu n'y vas pas toi-même, ne nous fais pas monter d'ici. À quoi donc saura-t-on que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? N'est-ce pas au fait que tu marcheras avec nous et que nous serons traités différemment, moi et ton peuple, de tous les peuples de la terre? Le Seigneur dit à Moïse, « Je ferai précisément ce que tu as dit, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je t'ai distingué par ton nom. » Alors Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire, je t'en prie. » Il répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom du Seigneur Yahweh. Je ferai grâce à qui je ferai grâce et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » Il ajouta, « Tu ne pourras pas voir ma face car l'être humain ne peut me voir et vivre. » Le Seigneur dit, « Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Puis je retirerai ma main et tu me verras par derrière. Mais ma face ne pourra pas être vue. » N'est-ce pas magnifique de voir le cœur de Moïse pour Dieu, pour l'honneur de Dieu, mais aussi pour son peuple, ceux qui partagent la même humanité que lui. Moïse se soucie non pas juste de lui-même, mais de tout le peuple. Comme il aime ce peuple. N'est-ce pas? Ça me touche de voir comment Moïse aime, malgré tout, son propre peuple. Il suffit du souci que Dieu décide de ne pas venir, qu'il les envoie, mais sans sa présence. Et Moïse ne peut pas concevoir ça. C'est pas possible. Si tu viens pas avec nous, on bouge pas. Ça sert à rien d'aller. Ça sert à rien dans le pays où coule le lait et le miel de jouir de bénédictions si toi, Dieu, tu n'y es pas. Et ça, c'est la réponse aussi pour nous. Souvent, on aime bien les promesses de Dieu, mais s'il n'y a pas Dieu avec, c'est nul. Ça sert à rien. Et il a raison. Ça sert à rien si Dieu ne vient pas. Ça sert à rien si Dieu n'est pas. Et ce qui compte le plus pour Moïse, à nouveau, ce n'est pas le pays promis ou les bénédictions de Dieu, mais la relation avec Dieu lui-même. Il veut aussi savoir si Dieu va venir et qui va être donc ce représentant de Dieu avec le peuple. Et pourquoi il fait cette demande-là ? De nouveau, ce qu'il concerne, ce n'est pas lui-même, ce n'est pas les bénédictions, mais c'est la réputation de Dieu. Il dit, mais comment est-ce qu'on va savoir, alors que nous sommes ton peuple, si tu n'es pas avec nous ? Les autres nations ne verront pas la différence s'il n'y a pas cette relation spéciale qui nous unit. On peut être dans un territoire, on peut avoir même tout des millions de kilomètres carrés sur la surface de la planète, mais ce n'est pas ça qui distingue un peuple à part de tous les autres. C'est le fait que Dieu est présent. Peu importe qu'on soit grande église, ce qui va nous distinguer, si c'est Dieu est vraiment avec nous, si nous sommes en train de vivre en relation avec lui, en plus de jouir de toutes les bénédictions qu'il nous donne. Et Moïse, donc, sur la base de la faveur que Dieu lui témoigne, il demande la même faveur, la même chose pour tout le peuple. Il demande que Dieu soit présent. Il demande que le peuple puisse voir la face de Dieu. Il demande que la gloire de Dieu se manifeste au milieu de son peuple. Et toutes ces expressions-là sont en fait différentes facettes d'une même réalité. Dieu qui est là. Vous voyez ça, verset 15. « Si tu n'y vas pas toi-même, ne nous fais pas monter d'ici. À quoi donc saurait-on que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple ?» N'est-ce pas au fait que tu marcheras avec nous, que nous serons traités différemment, moi et ton peuple, de tous les peuples de la terre ? Et la réponse de Dieu est superbe, elle est géniale. Le Seigneur dit, j'irai moi-même avec toi, je t'accorderai le repos. Vous vous rappelez qu'est-ce que c'est la définition du repos ? La définition du repos, comme dans Genèse 2, c'est d'être dans le lieu choisi par Dieu, en bonne relation les uns avec les autres, et en bonne relation avec Dieu. C'est la même promesse qui était dans le jardin d'Éden, c'est la même promesse que Dieu refait à Abraham par pure grâce. Je vais te bénir, il y aura une relation spéciale entre toi et ta descendance, et tous les gens des nations qui entreront dans cette alliance-là, ils bénéficieront aussi de cette même relation spéciale. Et puis je vais vous multiplier, je vais vous bénir, il y aura harmonie entre vous, et je vais vous emmener dans un pays promis, un lieu où vous pourrez être et où moi-même je serai. C'est l'évangile. C'est l'évangile annoncé d'avance, bien avant le Nouveau Testament, bien avant Jésus-Christ. Donc Dieu répond positivement, il dit « Je vais vous accorder le repos, je vais venir moi-même, je vais faire ce que tu as dit Moïse. » Quand on prie, croyons pas que ça sert à rien. Dieu suscite nos prières et écoute nos prières. Difficile à réconcilier pour nos cerveaux un peu limités. On n'est pas en train de faire un bras de fer, Dieu n'est pas coincé. Par nos prières. C'est lui-même qui les suscite et c'est lui-même qui les écoute. Je ferai précisément ce que tu as dit. Car tu as trouvé grâce à mes yeux. Je t'ai distingué par ton nom. Vous voyez ça ? Dieu accepte sur la base de sa relation à Moïse, de faire tout cela. Il le rassure. Et Moïse demande à voir Dieu. Et là encore, Dieu accepte. Dieu accepte de se révéler. Dieu accepte de révéler sa face, sa forme. En fait, qu'est-ce qu'il dit à Moïse ? Il dit, je vais révéler mon nom. Je vais te faire connaître mon nom. Je vais te faire connaître qui je suis. C'est quoi ma personnalité ? Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom du Seigneur Yahweh. Est-ce qu'il va juste entendre résonner Yahweh, Yahweh, Yahweh ? Audiblement, et ce sera tout. Non, en fait, Dieu dit exactement qu'est-ce que ça veut dire Yahweh. Il précise dans ce nom. Et le sens de Seigneur, de Yahweh, c'est « je ferai grâce à qui je ferai grâce et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion ». Dieu accepte de se révéler, de se faire connaître par son nom, de la même manière qu'il connaît Moïse par son nom. Vous voyez ça au verset 12. Dieu dit « Je t'ai distingué par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux », il dit ça à Moïse. « Je t'ai distingué par ton nom », il connaît très bien Moïse. Et Moïse veut connaître Dieu lui-même et trouver encore plus grâce aux yeux de Dieu en connaissant encore mieux le Seigneur. Ça, c'est au verset 13. Et voilà qu'il demande à voir la gloire de Dieu et Dieu dit ben, « je vais te faire connaître qui je suis, quel est mon nom ». Donc cette relation, si vous voulez, elle est sur la base d'un tutoiement. C'est pas vous, même s'il y a beaucoup de respect dans la relation, mais c'est comme un tutoiement. C'est sur la base des prénoms. On ne dit pas « Monsieur Moïse », c'est « Moïse » et c'est « Yahweh », le prénom personnel de Dieu, celui qui le définit le plus intensément et le plus proche. Et bien que Dieu dise « Tu ne pourras pas voir entièrement, tu ne pourras pas voir ma face », si personne ne peut voir la face de Dieu et continuer à vivre, on ne peut pas voir Dieu face à face avec encore des restes du péché en nous. Mais Dieu donne quand même une révélation qui est équivalente, qui est suffisamment bonne et claire et suffisante pour répondre à la demande de Moïse. Et Dieu a déjà indiqué, d'ailleurs, sa préférence pour des révélations verbales, des révélations qui sont en mots, qui touchent notre cœur, plutôt que des révélations visuelles, juste d'apparence. Et cette révélation, c'est que Dieu est libre de faire grâce à qui il veut faire grâce. Il est libre en lui-même d'avoir compassion de qui il veut avoir compassion. Dieu est souverain. Il n'est pas contraint par un avocat vicieux qui cherche des silences dans la loi, qui cherche des vices de procédure pour obliger Dieu à trouver des plans B pour réagir. Non, c'est de son plein accord, c'est en lui-même. C'est parce qu'il est qui il est, parce qu'il est fidèle et intègre à sa propre personnalité que Dieu décide de faire grâce à Moïse et à tout le peuple, comme il l'a déjà fait dans le passé pour tous les descendants d'Abraham. Et même, on peut remonter à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dieu décide en lui-même, personne ne l'oblige. Dieu est amour. Dieu décide d'avoir compassion de qui il va avoir compassion, d'avoir pitié, miséricorde pour qui il va avoir miséricorde. Ça veut dire que ça ne dépend pas non plus de nous. Ce n'est pas nos efforts, ce n'est pas notre propre... Parce qu'on pourrait faire une échelle dans l'humanité et dire ouais, « je suis au-dessus de la moyenne, donc c'est bon, je passe dans la classe supérieure ». Ça ne dépend pas de nous, ça dépend de Dieu. Dieu est libre d'aimer. Quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle pour nous! La bénédiction, les bénédictions et la présence de Dieu avec le peuple, comme demandé par Moïse, on peut avoir assurance... Assurance ferme et certaine que Dieu va les donner. Parce que ça ne dépend pas de nous, ça dépend de lui. Et lui, il a compassion. C'est parce que Dieu a compassion que la bénédiction accordée à Moïse, la faveur que Moïse a trouvée, elle sera aussi accordée à tout le peuple. Alors on voit le Seigneur, après cela, qui renouvelle l'alliance de nouveau sur la base de qui il est. Sur la base de sa propre personne et de son caractère. Je vous invite à lire quelques versets au début du chapitre 34. Donc, Exode au chapitre 34, verset 1. Le Seigneur dit à Moïse, « Taille deux tablettes de pierre comme les premières. J'écrirai sur ces tablettes les paroles qui étaient sur les premières tablettes que tu as brisées. » Ok, juste petit commentaire. Donc, ce n'est pas un changement de terme de l'alliance, ce n'est pas un changement du contrat. C'est juste le même contrat qui continue en fait, qui est reproposé, remis sur la table. Verset 2. Dieu dit à Moïse, « Sois prêt au matin. Dès le matin, tu monteras au mont Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi et qu'on ne voit personne dans toute la montagne. Que ni le petit bétail, ni le gros bétail ne pèsent devant cette montagne. C'est bien un rappel de ce qu'on avait vu au chapitre 24. C'est les mêmes conditions que dans la première réalisation donc, de cet engagement de cette alliance. Verset 4, Moïse tailla deux tablettes de pierre comme les premières, puis Moïse se leva de bon matin et monta sur le mont Sinaï, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il prit les deux tablettes de pierre. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur descendit dans la nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom du Seigneur, Yahweh. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est dans vos traductions, si vous avez éternel ici ou si vous avez Seigneur, en fait derrière, c'est le nom personnel de Dieu, Yahweh. Verset 6, le Seigneur passa devant lui en proclamant, le Seigneur, Yahweh, Yahweh, Dieu compatissant et clément, patient et grand par la fidélité et la loyauté, qui conserve sa fidélité jusqu'à la millième génération, qui pardonne la faute, la transgression et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, qui fait rendre des comptes aux fils et aux petits-fils pour la faute des pères jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Moïse s'empressa de s'incliner jusqu'à terre en se prosternant. Il dit, « Seigneur, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher parmi nous, car c'est un peuple rétif. Tu pardonneras notre faute et notre péché, et tu feras de nous ton patrimoine. » Il répondit, « Je conclus moi-même une alliance. Je ferai devant tout ton peuple des choses étonnantes telles qu'il n'y a jamais eu sur toute la terre et dans toutes les nations. Tout le peuple qui t'entoure verra l'œuvre du Seigneur, cette œuvre redoutable que j'accomplirai avec toi. » On voit Dieu donc dans sa grâce qui initie un renouvellement de l'alliance en demandant à Moïse de se présenter avec les deux tablettes de pierre. C'est toujours le Dieu saint tel qu'il était en 24. Il n'a pas baissé son niveau d'exigence. Ah, c'est trop haut. Exode chapitre 32, le peuple ne pourra pas, donc je baisse mon niveau d'exigence. Non. Attention, le petit bétail, le gros bétail, et pas n'importe qui s'approche comme ça de Dieu. C'est de nouveau ce qu'on avait vu, le Dieu inapprochable qui s'approche malgré tout. Mais justement, ce qui vient va indiquer comment on s'approche du Dieu inapprochable. Et on va voir après donc le chapitre 34, on ne va pas le voir, mais je vous invite à le lire en fait, que 35 jusqu'à 40, après avoir renouvelé cette alliance, Dieu lance les travaux pour la construction du tabernacle. Donc le projet continue. Et on arrive à la fin de Exode, au chapitre 40, et le tabernacle est construit. Et qu'est-ce qui se passe? Au milieu du peuple, cette tente est là, construite, et Dieu vient et la remplit de toute sa gloire. Et maintenant, c'est plus à distance, mais c'est dans la proximité du peuple que Dieu se trouve. Et qu'est-ce qui va permettre ça? Qu'est-ce qui fait que ça va arriver? Mais ça dépend de Dieu, de son caractère, de qui il est. Voyez avec moi les versets 6 et 7, et c'est absolument magnifique. Le Seigneur passait devant lui en proclamant, le Seigneur, Dieu compatissant et clément, patient et grand par la fidélité et la loyauté, qui conserve sa fidélité jusqu'à la millième génération, qui pardonne la faute, la transgression et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, qui fait rendre des comptes aux fils et aux petits-fils pour la faute des pères jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Dieu, dans son essence même, au plus profond de lui, est un Dieu plein de pitié, de bienveillance, de tendresse, patient, plein d'amour, plein de fidélité, qui montre sa bonté pendant des milliers de générations. T'es un papa, t'es une grand-mère, tu es juste un être humain sur la surface de la planète, tu sais ce que c'est une famille, tu vois, tu fais partie d'une génération, tu es né à une telle époque. On dit une génération, c'est une vingtaine d'années, entre 20 et 30 ans, n'est-ce pas? Voilà, Dieu et sa volonté, c'est de bénir pour des milliers de générations. Ça, c'est la force, la grandeur de cet amour, d'une manière qu'on n'arrive plus à compter. À quel point Dieu veut bénir et Dieu veut faire du bien. Il supporte les fautes, il supporte les révoltes et les péchés. Il est prêt à pardonner. Et si, parce qu'il est Dieu saint, il doit intervenir pour maîtriser et contraindre le péché, Il ne va pas dire, cette bonté-là n'est pas du style à dire, faisons comme s'il ne s'est rien passé. Oups, je n'ai rien vu. Ce n'est pas cette bonté-là de Dieu. Cette bonté-là, elle est aussi en accord avec sa justice. Mais regardez quelle différence, un contraste qui nous époustoufle. Parce que la punition, elle est pour 3 ou 4 générations. La bénédiction, c'est pour des milliers et des milliers de générations. Vous voyez la différence dans la bonté, la justice de Dieu. Et ça nous parle alors du caractère de Dieu. Est-ce que tu veux connaître ce Dieu-là? Est-ce que tu l'as connu? Est-ce que c'est en train de changer ta manière de vivre alors en relation avec lui? De vivre en relation avec les autres? Et Dieu dit, voilà, je m'engage par moi-même à faire que cette alliance, cet engagement de ma bonté, il va durer. Et il renouvelle les termes, dont j'ai déjà dit, c'est les mêmes termes. Il y a les 2 tablettes, donc il y aura les 10 paroles qui vont être redites. Moïse, il nous redit pas tout, les chapitres 21 à 23 d'Exode. Mais il y a quelques avertissements, de ne pas conclure d'alliance avec les habitants du pays. C'était déjà là, mais Moïse y prend soin de rappeler ça. Avec les peuples qui n'adorent pas Dieu. Pourquoi? Parce que le risque, c'est que alors Israël adopte ses dieux, ses idoles, alors qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Et en même temps qu'il met ça, il mentionne aussi le mariage Dieu, avec des personnes qui ne sont pas dans l'alliance avec Dieu, qui n'ont pas été sauvées par Dieu, qui n'ont pas venu à Dieu pour demander cette relation avec Dieu, qui ne sont pas venus repentants pour demander pardon pour les péchés. Parce que tout aussi gentils et mariables qu'ils soient, ces gens-là, le danger, c'est qu'ils détournent les membres du peuple de Dieu de la vraie adoration, de la vraie relation avec Dieu lui-même. Et voyez comme c'est frappant cette correspondance, la ressemblance entre le mariage humain et l'alliance avec Dieu. Le mariage humain qui doit refléter cet engagement de Dieu vis-à-vis de son peuple. Et c'est frappant, n'est-ce pas, qu'en parlant de mariage, alors on trouve aussi le terme de prostitution vis-à-vis de Dieu, comme si Dieu peut pas considérer que, comme de même qu'un mari peut pas considérer son épouse en train d'aller voir un autre homme, ou une épouse considérer voir son mari en train d'aller voir une autre femme. D'accord, ça marche pas. De même, Dieu veut pas ce genre de relation-là. Ça peut pas aller. C'est un Dieu à la passion jalouse. Et ici, c'est pas la mauvaise jalousie où on convoite ce que quelqu'un d'autre a et qu'on n'a pas nous. C'est la bonne jalousie d'un mari qui veut préserver son couple, qui veut préserver son mariage et qui laisse pas son épouse être approchée ou voilà de manière indécente par des autres hommes et qui lui-même va pas faire ça. C'est ce même Dieu qui se présente comme un époux vis-à-vis de son peuple, qui veut s'engager dans le même genre de relation avec son peuple. Il y a la même consacration aussi qui est attendue. Tout ce qu'on a de meilleur, tout ce qu'on a de valeur, c'est pour Dieu. Le premier-né, juste pour voilà, appuyer ce que je suis en train de dire ici, lisons juste verset 12. « Garde-toi de conclure une alliance pour les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'ils ne deviennent un piège en ton sein. Vous démolirez leur autel, vous briserez leurs pierres levées et vous couperez leurs poteaux culturels. » Verset 15 encore, « Ne conclue pas d'alliance pour les habitants du pays, de peur que, se prostituant avec leur Dieu, en leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu n'en manges, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, et que celles-ci, se prostituant avec leur Dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer avec leur Dieu. » Puis verset 19, « Quiconque est né le premier de sa mère m'appartient, de même que tout mâle né le premier dans tes troupeaux, veaux, agneaux ou chevreaux. » Tout ce qui est de meilleur, tout ce qui est premier, c'est pour Dieu le premier dans nos vies. Ça nous parle de consécration, ça nous parle d'une attitude de cœur. Et tout ça, vous voyez, c'est en vue de rentrer dans le pays promis. Donc, la bénédiction de Dieu, elle se continue. Et donc c'est un retour magnifique aux choses que Dieu avait promises, que Dieu avait préparées. Et donc Exode 32 a été grave, mais ça n'empêche pas maintenant Dieu d'intervenir en faveur quand même de son peuple, de pardonner et de continuer cette relation avec le peuple de l'Alliance. Et on arrive alors au chapitre 34, au verset 29 à 35, où on voit que Dieu donc, parle face à face maintenant avec son peuple. L'Alliance est renouvelée et Dieu va parler face à face avec son peuple, mais au travers de Moïse. Et je vous invite juste à prendre encore quelques minutes pour considérer cela. Lisons chapitre 34, versets 29 à 35. « Moïse descendit du mont Sinaï. Les deux tablettes du témoignage étaient dans la main de Moïse lorsqu'il descendit de la montagne. Moïse ne savait pas que la peau de son visage s'était mise à rayonner lorsque il avait parlé avec lui, c'est-à-dire Dieu avait parlé avec Moïse. Aaron et tous les Israélites regardèrent Moïse. La peau de son visage rayonnait et ils avaient peur de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les princes de la communauté vinrent auprès de lui. Et Moïse leur parla. Après cela, tous les Israélites s'approchèrent et il institua pour eux tout ce que le Seigneur lui avait dit sur le mont Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant le Seigneur pour parler avec lui, et jusqu'à ce qu'il sorte, il retirait le voile. Quand il sortait, il disait aux Israélites ce qui lui avait été ordonné. Les Israélites regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau du visage de Moïse rayonnait. Moïse remettait alors le voile sur son visage jusqu'au moment où il entrait pour parler avec lui. » Est-ce que vous voyez le mouvement qui se passe ici? Moïse fait l'expérience de goûter à la proximité de Dieu, de pouvoir lui parler face à face. Ça le change. La gloire de Dieu rayonne dans sa vie, rayonne sur son visage. Et Dieu manifeste ça à cette époque-là, à ce moment-là, de façon même physique, au point que la peau de Moïse rayonne. Des fois, on aimerait bien être là pour voir comment ça se passait exactement. Dieu, le peuple, maintenant, va pouvoir faire l'expérience, lui aussi. Le peuple va pouvoir goûter, lui aussi, le privilège de Moïse et la joie de la relation proche avec Dieu, mais au travers de Moïse. Et vous voyez le mouvement qui se passe? Moïse va vers Dieu, Dieu s'approche de lui, Moïse lève le voile, Dieu lui parle, son visage se met à rayonner, il entend les paroles de Dieu, il est transformé de plus en plus à la ressemblance de Dieu, il apprend à connaître Dieu, à connaître le caractère profond de Dieu, et ça, c'est pas juste que ça rentre par une oreille, ça sort, ça produit quelque chose dans sa vie. Et Moïse bénéficie de ce privilège-là, mais quand il sort, qu'est-ce qui se passe? La première fois qu'il est sorti, Aaron a dit « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» Il voit ce visage rayonner. D'abord, ils ont eu peur, mais Moïse dit « Approchez !» Dans un premier sens, c'est comme si Moïse est devenu inapprochable, mais il dit quand même « Approchez, venez, n'ayez pas peur !» Et puis Moïse donne toutes les instructions de Dieu, il donne la parole qu'il a reçue lui-même de Dieu. Cette parole qui le transforme lui-même, il la passe au peuple. Il le fait de manière que c'est rayonnant, c'est plein de gloire. Le peuple peut constater cette gloire-là, la présence de Dieu par la parole en train d'être proclamée, par la bouche de Moïse. Il peut l'entendre et il peut le voir sur le visage de Moïse. Et une fois que ça s'est passé, Moïse referme le voile. Quand Moïse se tait, il remet le voile sur son visage. Et jusqu'à la prochaine fois où il entend de nouveau Dieu qui lui parle comme à un ami, que le même phénomène se reproduit, il retourne et le peuple entier bénéficie du coup des instructions, de la proximité, de voir la gloire de Dieu par le ministère de Moïse. Vous voyez cela? D'abord, il appelle les Aaron et les princes de la communauté. Mais après cela, verset 32, tous les Israélites s'approchèrent. Et on voit au verset 34 que Moïse entrait devant le Seigneur pour parler avec lui jusqu'à ce qu'il sorte. Il retirait le voile. Quand il sortait, il disait aux Israélites ce qui lui avait été ordonné. Les Israélites entendaient, bien sûr, mais ils regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau du visage de Moïse rayonnait. Moïse remettait alors le voile sur son visage jusqu'au moment où il entrait pour parler avec Dieu de nouveau. La même expérience, le même privilège est pour le peuple au travers de Moïse. Si vous connaissez la parole de Dieu, si vous connaissez la Bible, si vous connaissez le reste de l'histoire biblique, peut-être que vous avez commencé à voir alors en quoi ce passage, il nous concerne nous directement. On n'est pas au Sinaï, on n'est pas en plein désert. On n'est pas il y a 3500 ans à peu près donc avant cette date aujourd'hui avec Moïse. Moïse n'est plus là, mais nous avons un plus que Moïse, quelqu'un plus grand que Moïse, qui, on l'a chanté ce matin, était dans l'intimité même de Dieu, Dieu le Fils. On ne peut pas faire plus proche que Dieu le Père quand on est Dieu le Fils, qui parle à Dieu comme à un père. Même pas comme un ami maintenant, c'est une relation même filiale qu'il y a entre les deux. Et ce privilège-là, Dieu le Fils n'a pas considéré comme quelque chose qui lui était propre et qu'il n'allait certainement pas le partager avec les autres. Ce Moïse, il a tellement compassion, il est tellement conscient du caractère plein de bonté, de bienveillance de Dieu qui veut bénir, qui veut sauver, qui veut pardonner, qu'il a accepté de quitter cette place-là pour venir révéler cet amour-là de Dieu, dans notre monde, dans notre humanité, au milieu d'un peuple dont nous faisons partie, rebelles et pécheurs. Et la bonté de Dieu, la compassion. Dieu dit, j'aurai compassion de qui je vais avoir compassion. Je suis le Dieu qui fait du bien jusqu'à 1000 générations, qui pardonne les coupables. Qu'est-ce que ça a signifié? Eh bien, ce n'était pas juste une parole en l'air. Et quand on regarde à la croix, quand on voit Jésus-Christ en train d'être insulté, quand on voit Jésus-Christ en train d'être moqué, quand on voit Jésus-Christ en train d'être battu, fouetté, les mains et les pieds percés par des clous, en train non seulement d'être présent au milieu d'un peuple rebelle, mais en plus de ça, en train de prendre toutes ces choses-là à notre place, à la place du peuple rebelle, pour manifester justement la compassion de Dieu, le pardon de Dieu, pour des milliers de générations. Regardez, nous sommes là encore aujourd'hui. C'est grâce à Christ, à son œuvre sur la croix. Parce que lui, l'innocent, lui qui bénéficiait d'une relation privilégiée avec Dieu, il a accepté d'être coupé sur la croix de cette relation pour que nous ne soyons jamais coupés de notre relation avec Dieu. Il a accepté d'être abandonné sur la croix, de porter toutes les malédictions qui devaient tomber sur nous pour que nous soyons délivrés, pardonnés et assurés. Parce que c'est dans le caractère de Dieu, parce qu'il l'a prouvé en donnant son Fils à la croix, que nous ne serons jamais séparés de lui. Et puis Moïse, plutôt Jésus-Christ, en venant, a aussi annoncé clairement, a révélé clairement qui est Dieu. Il est venu plein de grâce, de vérité. Nous avons vu sa gloire, la gloire du Fils unique qui est dans l'intimité du Père, nous dit l'apôtre Jean dans l'Évangile, chapitre 1. Et il se passe un phénomène alors, c'est que quand nous regardons à Christ, quand nous écoutons sa parole, nous voyons le rayonnement de la gloire même de Dieu. Et ça, c'est censé nous transformer. L'Esprit Saint de Dieu vient, se saisit de ça et nous fait briller nous aussi de cette même lumière. C'est pas que nous avons cette lumière en nous, mais c'est dans l'intimité, dans la relation avec Dieu, que cette lumière rejaillit sur nous et qu'elle peut se refléter vers d'autres. Je voudrais dire deux choses pour terminer. D'abord, vous rappelez ce passage dans Matthieu, qui dit « Vous êtes la lumière du monde ». Et on n'est pas la lumière du monde en nous-mêmes, mais parce qu'on suit Christ, celui-là même qui est en train de donner ce sermon sur la montagne. Et je voudrais lire aussi avec vous, donc dans 2 Corinthiens. Donc si vous voulez tourner avec moi dans 2 Corinthiens, au chapitre 3 et au verset 12. 2 Corinthiens au chapitre 3 et verset 12. Et Paul vient juste de parler de la gloire qui entourait le ministère de l'ancienne alliance, la gloire qui entourait le ministère de Moïse en train d'entendre les paroles de Dieu, en train de donner la loi au peuple. Et il parle maintenant de ceux qui sont dans la nouvelle alliance. Et il dit au verset 12, « Ainsi donc, non pardon, ayant donc une telle espérance, nous montrons d'autant plus d'assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les Israélites ne voient pas la fin de ce qui était passager. Mais leur intelligence est devenue obtuse. En effet, jusqu'à ce jour, quand ils font la lecture publique de l'Ancienne Alliance, le même voile demeure. Il n'est pas enlevé parce qu'il ne disparaît que dans le Christ. Et jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, il y a un voile sur leur cœur. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. » Et tu as l'impression, peut-être ce matin, tu ne connais pas Dieu. Il faut que tu écoutes la parole de Dieu et il faut que tu l'écoutes de la bouche de Christ. Il y a un moyen d'avoir un voile ôté de tes yeux. Ce n'est pas de regarder à Moïse, c'est de regarder à Christ. C'est lui qui peut faire qu'on le voile est enlevé. Et avec Christ vient aussi l'action de l'Esprit. On lit ça au verset 17. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage dévoilé alors, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transfigurés en cette même image de gloire en gloire. Telle est l'œuvre du Seigneur qui est l'Esprit. Dès lors, puisque nous avons ce ministère selon la compassion dont nous avons été l'objet, quand on a été l'objet de la compassion de Dieu, on a un ministère maintenant de rayonner cette gloire autour de nous. Nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Dieu a tenu sa parole. Dieu a été fidèle. Dieu a manifesté sa compassion pour des milliers de générations. Et il va encore continuer de le faire pour des milliers de générations. N'est-ce pas propre à nous réjouir ce matin? N'est-ce pas propre à nous encourager, justement ce matin, que nous sommes au bénéfice du plus que Moïse, le médiateur parfait de Dieu qui a accepté d'intercéder auprès de Dieu pour que nous aussi nous puissions connaître Dieu, le voir face à face dans la personne de Christ, en écoutant sa parole, par l'action de son esprit, et qu'on puisse être dans une relation d'ami à ami, d'enfant à papa avec lui. Je vous invite à remercier dans une courte prière, et après je vous inviterai à célébrer avec moi le repas du Seigneur, en pensant justement à ce qu'on vient de voir ici ce matin. Dieu a envoyé son Fils pour manifester sa compassion et pour que nous puissions entrer dans une belle relation avec lui pour l'éternité. Seigneur, nous te remercions parce que tu n'as pas changé depuis l'époque de Moïse. Tu es celui qui a compassion, de qui tu vas avoir compassion. Ça ne dépend pas de nous. Et du coup, Seigneur, en ayant nos péchés pardonnés ce matin, nous réalisons que c'était entièrement ta grâce, ta faveur que tu as manifesté. C'était pour l'honneur de ton propre nom. C'était parce que tu es qui tu es que tu as fait cela. Merci de nous avoir révélé ta gloire. Merci de nous avoir fait connaître ton nom. Merci parce que, encore jour après jour, nous pouvons nous approcher de toi par Jésus-Christ, par l'Esprit de Dieu que tu as versé dans nos cœurs, qui nous permet de nous sanctifier, de nous approcher de toi, de comprendre ta parole, d'être transformé par elle et de refléter toujours plus ton propre caractère dans nos relations avec toi et avec les autres. Seigneur, je te prie que ta parole continue de faire son effet tout au long de cette semaine, tout au long des mois qui viennent. Manifeste ta bonté pour des milliers de générations encore ici, pour nous qui sommes dans l'Église, pour nos familles, pour nos proches et pour les habitants de Cavaillon. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.